On connaissait le Marrakech du Rire. Depuis l'an dernier, il y a également l'Afrique du Rire, un festival itinérant. Comme son nom l'indique, les humoristes sont tous africains, maghrébins et subsahariens, avec tous le même objectif, que le public rit, qu'il s'esclaffe, se marre, se bidonne. L'Afrique du Rire, ça commence ce soir à Marrakech et nous, on vous en parle dans la deuxième partie de l'émission avec Wallace, le créateur du festival. Elle revient sur ses traces après une longue absence et les souvenirs remontent à la surface. Une nostalgie entêtante, un spleen auquel on se laisse aller. Les larmes éloquentes, premier roman très personnel de Dalila Medjed. Elle va venir nous en parler. Et puis l'Orchestre Philharmonique du Maghreb en tournée au Maroc. 5 dates, près de 70 instrumentistes, dont 3 solistes, un violoniste, une violoncelliste et une pianiste. On vous explique tout cela dans 3 minutes. Le temps d'écouter Feeling Good, à mon humble avis, l'une des meilleures reprises de ce standard. Elle est signée Muse. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good.
Bain de culture, le concert.
Musique classique, musique symphonique, ce que nous entendons actuellement, c'est le triple concerto pour piano, violon et violoncelle en do majeur, opus 56 de Beethoven. Dina Ben Saïd, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de la Fondation Ténor pour la Culture au Maroc. C'est cette fondation qui gère notamment l'Orchestre Philharmonique du Maroc, l'OPM. Mais si vous êtes avec nous ce dimanche, c'est pour parler d'un autre ensemble qui se reforme ces jours-ci. On garde les mêmes initiales. L'OPM devient l'Orchestre Philharmonique du Maghreb. Quelques mots tout d'abord pour rappeler l'origine de ce projet. Ça a commencé l'aventure il y a 4 ans.
Oui, absolument. C'est un projet qui est initié par la Fondation Ténor pour la Culture, qui a voulu regrouper des musiciens issus des trois pays du Maghreb, donc le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, pour véhiculer ensemble une image de partage et de dialogue entre ces trois pays voisins.
Et donc le principe, c'est qu'il y a les musiciens de l'Orchestre Philharmonique du Maroc que l'on connaît, mais à cette formation-là vient s'ajouter aussi des instrumentistes qui viennent d'Algérie, de Tunisie.
Oui, absolument. On va chercher des musiciens, soit qui sont dans les orchestres d'Algérie ou de Tunisie, ou dans des orchestres européens. Ce sont des musiciens qui sont maghrébins ou d'origine maghrébine. Donc on va chercher un peu les meilleurs éléments qu'on peut trouver pour les regrouper tous ensemble au Maroc pour former cet orchestre philharmonique du Maghreb.
Et sur le plan purement comptable, au total, l'orchestre philharmonique du Maghreb est composé de combien d'instrumentistes?
Alors là, on va être autour de 70 instrumentistes quand même.
Quand même, comme vous dites. Une série de concerts programmés donc ces prochains jours, ça commence d'ailleurs ce soir, ce sont les concerts du Nouvel An. Quatre villes, Agadir, Rabat, Casablanca, Oujda. Cette fois, l'orchestre est placé sous la direction d'Olivier Holt. C'est un chef d'orchestre français, il a un solide CV. Je vous laisse dire quelques mots au sujet de ce chef d'orchestre, de ce maestro.
Oui, alors Olivier Holt, on a là beaucoup sous la baguette, effectivement. En plus d'avoir dirigé beaucoup d'orchestres à travers l'Europe, c'est aussi le premier chef invité de l'Orchestre Philharmonique du Maroc et son conseiller artistique. Donc c'est quelqu'un qui a un lien fort avec cet orchestre qu'il connaît depuis quelques temps, et de le voir sur scène est toujours quelque chose de très émouvant parce qu'il est effectivement très expressif et il arrive à sortir un son très énergique de l'orchestre, c'est vraiment agréable.
Alors ce qui est amusant, c'est qu'Olivier Holt, pour le coup, il va diriger cet orchestre philharmonique du Maghreb, donc composé de musiciens de plusieurs nationalités venant de différents pays. Il connaît ce principe, il est à l'origine lui-même de l'orchestre symphonique d'Europe. Et puis pour les auditeurs, je l'occasion au passage, une petite anecdote, il avait accompagné avec sa formation l'orchestre symphonique d'Europe, le chanteur Johnny Hallyday en concert au Zénith, c'était au tout début des années 90. Je referme la parenthèse. Pour ces concerts du Nouvel An, Dina, il y aura trois jeunes solistes, des pointures. On les présente les uns après les autres. Tout d'abord, Mohamed Iber au violon. Il a à peine 23 ans, il est tout jeune. Hein.
Oui, il est tout jeune et il n'est pas inconnu du public marocain parce qu'il a été lauréat du concours international de musique de l'Orchestre Philharmonique du Maroc il y a 2 ans maintenant. À l'occasion de ce concours, il a donc eu le prix de la Fondation Ténor pour la Culture et a été réinvité pour jouer avec l'Orchestre Philharmonique du Maghreb. C'est aussi un musicien qui est engagé parce qu'il a été repéré par Daniel Barenboim, qui est une très grande figure de la musique classique, qui l'invite régulièrement dans son orchestre, Divan Orchestra, qui est un orchestre qui regroupe des musiciens palestiniens et israéliens sur la même scène. C'est dire que Mohamed est sensible à la cause que nous défendons aujourd'hui avec l'Orchestre Philharmonique du Maghreb.
On écoute Mohamed Iber sur un concerto de Brahms. Voilà, le violoniste Mohamed Heiber, soliste pour cette série de concerts. Il a accompagné des plus grands orchestres, l'Orchestre Symphonique de Londres, l'Orchestre Royal de Wallonie, l'Orchestre Philharmonique Tchèque. Il a joué récemment à la Philharmonie de Paris. Il est passé par le Conservatoire National Supérieur de Paris d'ailleurs, comme beaucoup d'autres, et comme la violoncelliste Elisa Hutto, qui sera présente aussi. Là aussi, quelques mots, Dina, sur Elisa Hutto.
Oui, Elisa Hutto est une violoncelliste, effectivement, qui sort du Conservatoire de Paris, qui joue avec différents orchestres français, notamment celui de la radio ou celui de l'Opéra de Paris, qui est une artiste assez complète, qui fait aussi beaucoup de musique de chambre que j'ai eu l'occasion de faire avec elle depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Donc c'est une artiste que j'apprécie beaucoup.
Alors là aussi, on l'écoute un petit peu. Vous parlez musique de chambre, on l'écoute sur le premier mouvement, trio en do majeur, opus 70 de Beethoven. « Mohamed Iber au violon, Elisa Hutto au violoncelle et puis Dina d'Ibn Saïd, vous-même au piano. Vous avez joué là aussi un peu partout en Europe, vous avez joué en Bulgarie, en France, en Italie, en Espagne, vous avez joué aussi au Canada. Vous-même, votre participation à cette tournée de l'Orchestre Philharmonique du Maghreb, vous allez intervenir sur la première œuvre qui sera jouée, donc cette œuvre de Beethoven, ce triple concerto pour piano, violon et violoncelle.
Oui, c'est une œuvre magnifique et absolument inédite parce qu'il n'en existe pas d'autre dans ce genre. Un triple concerto, donc normalement un concerto c'est un soliste qui est mis en avant et accompagné par un orchestre. Là c'est trois solistes, c'est un triple concerto, le violon, le piano et le violoncelle. Donc il y a une seule autre œuvre qui ressemble un peu dans l'histoire de la musique classique, c'est le double concerto de Brahms. Lui a choisi deux instrumentistes, le violon et le violoncelle, une œuvre qui sortira quelques années après celle de Beethoven, mais ça n'existe pas beaucoup dans la musique classique et c'est vraiment, ça vaut vraiment le détour.
Voilà, l'Orchestre Philharmonique du Maghreb en tournée au Maroc ces jours-ci. Vous serez ce soir à Agadir, un concert à l'Hôtel Royal Atlas, c'est à 20h. Mardi, vous serez à Rabat, au Théâtre Mohamed V, à Casablanca, mercredi et jeudi, à l'église Notre-Dame de Lourdes. Et puis enfin, la tournée va se refermer par Oujda, samedi prochain, au Théâtre Mohamed VI. Merci Dina Ben Saïd.
Merci à vous.
Midi, un bain de culture avec David Labo.
À chacun son métier, le leur c'est de nous faire rire. Ils et elles viennent du Maghreb et d'Afrique subsaharienne, la crème des humoristes de notre continent. Wallace, Amoutati, Adama Daïko, Rachid Boudari, 27 comédiens et comédiennes en tournée actuellement. On en parle dans la deuxième partie. Pour l'instant, Overphonique, 1, 2, 3. Et juste après, Dalila Medjed vient nous parler de son premier roman. Got my mindset. I got my mindset. Nous sommes maintenant avec Dalila Medjahed. Bonjour.
Bonjour.
Dalila, vous habitez Paris aujourd'hui, vous venez du sud de la France, vous êtes d'origine algérienne, on vous reçoit pour votre premier roman, Les larmes éloquentes. C'est un court récit sous forme de fiction, rythmé par des parenthèses, des interstices poétiques. On y suit une jeune femme, Jessica, qui revient dans sa ville de Carpentras après des années d'absence. Il y a beaucoup de nostalgie, elle est assaillie par ses souvenirs, par son passé, son histoire familiale. Dans tout travail d'écriture, on met souvent de soi-même. Mais là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Jessica, c'est vous. Vous l'assumez directement, noir sur blanc, dans votre récit. Alors pourquoi parler par le truchement de Jessica et pourquoi ne pas avoir assumé directement votre prénom, Dalila ?
Alors oui, effectivement, parce que j'ai voulu aussi, à travers les larmes éloquentes, dégager un certain mystère. Utiliser un personnage, peut-être aussi parce que c'était aussi difficile aussi de parler à la première personne. Et j'ai préféré, effectivement, il m'a paru beaucoup plus intéressant au niveau littéraire d'utiliser un personnage, le personnage effectivement de Jessica, cette petite fille qui, à travers son enfance et à travers son adolescence, et puis ensuite lorsqu'elle devient une femme, a voulu aussi faire part de ses observations, de ses épreuves, de ce que lui a aussi réservé la vie à travers ses rencontres.
Utiliser ce personnage de Jessica, ça vous permet aussi de peut-être vous protéger un peu,
oui,
de mettre les choses à distance.
Oui, tout à fait. Il y a aussi une forme de protection, tout à fait.
Jessica, elle est issue dans le livre, vous dites, de la famille des Hafsaïdes. C'est une dynastie à l'origine, une dynastie berbère qui a régné au XIIIe siècle.
Absolument, tout à fait.
Sur l'équivalent de l'Algérie, de la Libye, de la Tunisie
exactement,
d'aujourd'hui.
Exactement, oui, tout à fait. C'est une tribu, et pour être plus exact, c'est une tribu berbère qui a existé. Mmh. Et plutôt qu'effectivement, puisque moi-même je suis issue d'une famille, d'une tribu berbère, des marabouts, et effectivement j'ai voulu aussi, en utilisant ce nom de tribu, j'ai voulu aussi faire part de mes origines berbères.
Assumer cette filiation.
Exactement, tout à fait.
Dans son errance, Jessica se souvient de la Kabylie où elle passait ses vacances plus jeune. Ses souvenirs d'enfance, ce sont les vôtres, en quelque sorte. Qu'est-ce que ça vous a laissé, vous-même, comme souvenir ?
Alors moi, ça m'a laissé de très bons souvenirs. À travers les personnes qu'elle a rencontrées, elle a eu la chance et le privilège, effectivement, de passer ses vacances aussi bien à Alger que en Kabylie lorsqu'elle était enfant. Et elle a rencontré des gens formidables. Et elle a voulu aussi faire part de cette hospitalité que l'on retrouve également au Maroc, à travers sa population très ouverte, très gentille, toujours à l'écoute. Et c'est ce que j'ai voulu aussi démontrer.
On évoque dans le livre, par petites touches à des moments, le printemps berbère et la répression.
Oui, absolument, tout à fait.
Vous-même, vous avez vécu comment ces événements à distance ?
Alors, bien sûr, j'ai été touchée par ce qui est arrivé dans les années 80, puisque ça a commencé dans les années 80 avec la question liée au terrorisme. Et je crois que rien ne justifie de tels résultats. Utiliser la question du terrorisme par la violence en tuant des gens, c'est vraiment horrible et c'est dramatique.
Vous parlez du terrorisme dans votre court récit, c'est court, hein, c'est une cinquantaine de pages. Il y a ses souvenirs sur la Kabylie, il y a ses souvenirs d'enfance. Il est question aussi à plusieurs reprises du terrorisme. Le printemps berbère réprimé, le printemps noir, également les attentats du 11 septembre. Oui. Jessica fait partie d'une génération qui a vécu tout cela, qui a dû faire avec cela.
Oui, tout à fait.
Qui a été percutée par ces événements tragiques.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Pas simplement Jessica, mais également le monde entier, quel qu'il soit. Et c'est venu comme ça. Et c'est vrai qu'il y a eu une telle violence, une telle répercussion, que forcément, lorsque l'on est démocrate et lorsque l'on partage certaines valeurs qu'on essaye à travers, et c'est ce que j'ai voulu aussi expliquer à travers les larmes éloquentes, véhiculer toutes ces valeurs républicaines auxquelles je crois profondément.
C'est toujours assez déstabilisant ce genre d'événement parce que ça nous questionne à chaque fois sur l'humain.
Oui, sur l'humain. Oui, c'est vrai que quand il y a eu par exemple les attentats de Charlie Hebdo à Paris en 2015, je me suis posé la question en me disant comment des individus peuvent arriver à de tels actes. Et c'est pour ça aussi que j'ai utilisé, en toute humilité bien sûr, à travers les mots, et tout particulièrement la poésie, pour essayer justement d'interpeller encore plus le lecteur, et en utilisant la poésie pour transmettre aussi des émotions, pour le toucher en plein cœur.
Vous parlez aussi dans Les larmes éloquentes de Mohamed, qui est installé en France, d'un père de famille. Il se souvient avec émotion de son passé, de la guerre de libération de l'Algérie, de l'espoir, mais aussi des souffrances qu'elle a engendrées. Il s'écrit à propos de la guerre: « Plus jamais ça, l'Algérie c'est mon pays, la Kabylie c'est ma patrie, la France celle qui a donné sens à ma vie ». C'est une devise que vous pourriez faire vôtre également ?
Oui, tout à fait, absolument. C'est vrai que si mes parents n'étaient pas venus en France, peut-être que j'aurais eu un destin autre, puisque au-delà de mes origines, dont je suis fière, j'ai eu la poliomyélite, j'ai des séquelles de polio. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi d'être bien soignée lorsque mes parents sont venus s'installer en France. Et c'est vrai que peut-être que je me dis que si j'avais vécu dans un autre pays, si mes parents avaient fait ce choix de rester là-bas, peut-être que j'aurais eu un autre destin, peut-être même que je n'aurais pas marché, je n'aurais pas eu la possibilité de... Et je me rends compte aujourd'hui de la chance que j'ai, oui, parce que c'est une chance. Et je leur dis, je dis merci à mes parents, mais également à tous celles et ceux que j'ai pu rencontrer, puisque ma vie a été aussi jalonnée de rencontres extraordinaires, humaines, intellectuelles, et c'est aussi pour ça que j'essaye d'y arriver, j'essaye de m'en sortir pour, à mon tour peut-être aussi, à un moment donné, pouvoir donner la chance que j'ai eue à d'autres.
Pourquoi ce
et
besoin...
pour dire que c'est possible. Mmh. Voilà.
Pourquoi ce besoin d'écrire ? C'est une recherche personnelle, vous le faites pour les autres, les éventuels lecteurs,
oui,
ou avant tout pour vous-même ?
Alors peut-être que je le fais aussi pour moi, pour peut-être pour...
Je vous demande cela car, une fois de plus, c'est un récit très personnel.
Oui,
et
tout
c'est
à
assumé
fait.
En
absolument,
tant que tel.
Absolument, tout à fait. Il y a une forme aussi d'exutoire dans l'écriture, hein. Exprimé par l'écriture, ce que je ressens, ce qui me fait mal aussi. Parce que tout à l'heure, vous parliez très justement de la question liée au terrorisme, à la question liée aux origines de l'auteur, et dont l'auteur lui-même ne peut pas faire abstraction. Et l'auteur l'assume, et je l'assume.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, sur le fait que ces actes terroristes à des moments sont commis par des personnes qui peuvent avoir les mêmes origines que vous, et il faut faire avec.
Exactement. Et quelque part, ça fait mal parce qu'on se dit des personnes qui sont nées en France, qui ont reçu plus ou moins la même éducation, qui sont allées à l'école républicaine. On a eu quand même beaucoup de chance. Et c'est vrai que tout cela contribue malheureusement aussi à toute forme d'extrémisme et qui apporte aussi ce que l'on voit aujourd'hui, avec peut-être beaucoup plus de racisme. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas qu'il y ait d'équivoque. Il faut aussi, les journalistes ont aussi la responsabilité de faire voir aussi ce qui va. Il y a des gens parmi les personnes de l'immigration, il y a aussi des gens qui veulent s'en sortir, qui veulent y arriver. Et c'est aussi pour ça que j'ai écrit Les larmes éloquentes.
Le travers des médias qui se concentrent essentiellement, pour ne pas dire uniquement, la plupart du temps sur les drames, sur ce qui ne va pas bien, alors qu'il y a aussi des choses qui
Exactement,
vont bien.
Exactement, tout à fait.
De belles histoires à raconter.
Voilà, de belles histoires à raconter. Et les larmes éloquentes...
Quand je dis de belles histoires, juste d'écrire la
Exactement,
réalité telle qu'elle est.
Ouais. Exactement, tout à fait.
Dalila Medjahed avec ce livre Les larmes éloquentes, c'est publié aux éditions Panthéon. Merci d'être venu jusqu'à nous dans Bain de Culture ce
merci
dimanche.
Merci beaucoup. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay.
Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. And I know. Hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away.
Midi, bain de culture avec David Labou.
L'Afrique du Rire, deuxième édition après la Côte d'Ivoire et avant le Mali et le Sénégal. Le festival fait escale au Maroc, ce soir à Marrakech, demain à Rabat, après-demain Casablanca. Lui aussi sera sur scène, c'est le créateur de l'événement. Wallace avec nous dans 3 minutes, le temps d'écouter John Legend.
I had no intention I would get locked up tonight. I looked in your eyes and they went through me like a knife. Crew, I lost them. Came with my cool, I dropped it. And if I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Yeah. I'm so weak and I'm never like that. Like speeding, I think I might crash. One trip down, I might never go back. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. I know it's gonna be a good night. I think I just met my wife. Alright. Maybe it's the music or the red stain on your lips. I'm wondering when the right time is to go in for a kiss. But I'm thinking past that, love. I'm ready to meet your mama. If I'm being honest, I'm being honest. I can't think when you're looking like that. Can't breathe when you're moving like that. Tell me when you're gonna do me like that. Like that. I wish you knew what I'm thinking right now. I don't know if I can say it out loud. I don't know if I can say it out loud. But everything's gonna be alright. I think I just met my wife. I know it's gonna be a good night. I think I just met. Baby, it's you, yeah. And ooh, I feel like something good is about to be going on. Hey, and baby, it's you, yeah, yeah. Baby, it's you, yeah. And everything's gonna be alright. I think I just met my wife.
Connaissez le Marrakech du Rire, voici l'Afrique du Rire. L'idée, c'est de réunir sur la même scène des humoristes venus de plusieurs pays du continent. Nous sommes avec Wallace. Bonjour.
Bonjour, comment allez-vous ?
Parfaitement, je vous remercie, et vous-même ?
Très très bien, au top, très content de vous entendre.
Voilà, bon ben ça c'est fait, l'Afrique du Rire au départ c'est votre idée, voilà, c'est vous qui avez monté l'événement, c'est la deuxième édition. Comment se crée la liste des comédiens et des comédiennes invitées ? Je ne sais pas si on peut parler de casting, mais j'imagine que le monde des humoristes, c'est un petit monde en fait, tout le monde se connaît ?
Exactement, c'est un petit monde, tout le monde se connaît, et puis on a la chance de découvrir de plus en plus d'humoristes quand on va dans des spectacles, des humoristes qu'on voit soit en première partie, soit dans des festivals, et c'est des humoristes qui cartonnent, et puis le casting se fait, on peut dire ça, hein, au fil de l'année, en repérant des perles et en gardant que des perles.
Donc c'est une guirlande de perles qui nous attend ces prochains jours durant cette tournée.
C'est exactement ça.
Alors la tournée a déjà commencé. Vendredi, vous étiez à Abidjan. Ce soir, vous êtes à Marrakech. Wallace, quand vous montez sur scène vous-même dans la capitale ivoirienne, on peut dire que vous jouez à domicile. Vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Je vous propose que l'on écoute l'un de vos sketchs où vous parlez de votre histoire et on en reparle juste après.
Moi j'ai demandé à mon père, tu sais, je suis allé voir mon père, je lui ai dit « Papa, explique-moi juste un truc. Tous tes frères, ils sont partis aux États-Unis, au Canada, en France. Toi, tu es venu en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? C'était un bateau, tu as dormi. » Il m'a dit « Non, mon fils, quand moi je suis arrivé dans la Côte d'Ivoire, c'était en 1956, avant l'indépendance. Il y avait le drapeau de la France. Moi, je crois que je suis arrivé. » Je croyais que je suis arrivé dans la France. 4 ans plus tard, le bleu, blanc, rouge, il devient orange, blanc, vert. Alors j'ai regardé longtemps comme ça, j'ai dit « Chumch, kshuf-trapo ». C'est après que j'ai compris qu'on s'y fait avoir. Mais je suis très content. Non, je suis vraiment content aujourd'hui de vivre en Côte d'Ivoire. Ça me permet de découvrir toute l'Afrique, la Guinée que j'adore, le Mali, le Burkina, le Congo. Waouh, est-ce qu'il y a des Congolais ? Là, j'adore. Mais il y a un truc chez vous que j'adore, c'est les questions qu'on vous pose à l'aéroport quand tu arrives à Kinshasa. Je te jure, le mec il m'a regardé direct et m'a dit « Vous avez une arme sur vous ?» J'ai une saillie d'année, je vais avoir une arme sur moi. J'ai dit, bien sûr que j'ai pas une arme sur moi. Il m'a dit, tenez, vous allez en avoir besoin.
Voilà, c'est le plus ivoirien des humoristes marocains ou le plus marocain des humoristes ivoiriens. Ça marche dans les deux sens, j'imagine. Vous étiez prédestiné, en fait, à créer un événement pareil. L'Afrique du Rire, vous qui êtes à cheval entre ces deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire.
Alors oui, c'est vrai que c'est un événement que j'avais en tête depuis plusieurs années déjà. On n'avait pas encore les bons partenaires pour nous accompagner sur ce type d'événement qui est un événement très lourd à porter. Et alhamdoulilah, on va dire grâce à Dieu, aujourd'hui les sponsors ont cru en l'Afrique et en nous et nous ont permis de contribuer à mettre à la lumière ce continent-là qui est le berceau de l'humanité. Et puis, on est très, très heureux de pouvoir réaliser c'est un rêve pour moi. C'est un rêve depuis le début de pouvoir monter un festival aussi gros, un festival itinérant qui va parcourir l'Afrique et qui va aller donner de la bonne humeur aux Africains. Parce que si aujourd'hui, il y a un peuple sur Terre qui a le plus besoin de rire, c'est bien nous, l'Afrique, avec tout ce qu'on vit et on subit des fois. On était, je vais dire que l'Afrique était prédestinée à avoir un événement comme ça.
Je parlais de vos origines, le fait que vous ayez grandi comme ça en Côte d'Ivoire. Cette double culture, Wallace, que vous avez, ça vous apporte quoi ? En quoi c'est un plus dans votre vie ?
C'est un plus parce que déjà, je suis né africain, étant donné mon côté marocain et mon côté ivoirien. Donc, c'est un plus de pouvoir être resté en Afrique, mais d'avoir parcouru d'autres villes de ce continent-là, d'autres capitales, d'autres pays qui m'ont montré, qui m'ont appris à quel point on avait une joie de vivre et une hospitalité différente de ce qu'on trouve ailleurs, hein, bien évidemment. Je suis fier et heureux aujourd'hui de pouvoir vivre en Afrique et en faire mon métier, de faire mon métier en Afrique et de parcourir l'Afrique et surtout d'y rester. Je pense que c'est ma plus grande fierté, c'est d'avoir réussi à y rester et de ne pas avoir tenté comme plusieurs de traverser l'eau, comme on dit chez nous, pour aller à la recherche d'un bonheur qui n'existe peut-être même pas.
L'Afrique du Rire, votre événement, il réunit des hommes et des femmes sur scène. Le milieu des humoristes n'est pas uniquement masculin, loin s'en faut. Parmi vos consoeurs, il y a Samia Orosman. Là aussi, je vous propose qu'on l'écoute un petit peu.
Bien sûr.
J'ai toujours été fascinée par l'Afrique subsaharienne. Ce qui me fait souvent rire, c'est quand on me dit « Allez, vas-y, fais-nous l'accent africain ». Ça veut rien dire, l'accent africain. C'est comme si je te disais « Mais fais-moi l'accent européen ». Et puis, généralement, c'est les Arabes qui te disent ça. « Eh, vous êtes au courant, les Maghrébins, que le Maghreb, ça se trouve pas en Californie ?» C'est en Afrique, ok? Et même en Afrique, il y a différentes manières de parler. Par exemple, au Maghreb, nous, les Tunisiens, quand on parle, on a tendance à chanter. Que ce soit en français ou en arabe, ça donne un peu ça. Allô? Oui, wallahi, vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable, l'Esmani. Encore le Khaja, je te dis quelque chose entre nous. Tu sais, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Et bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Et même nos hommes parlent comme ça. Alors essayez d'imaginer la virilité des Tunisiens. La dernière fois, il y en a un qui s'est levé et m'a dit « Quoi ? Moi, je parle en chantant !» Ensuite, il y a les Algériens. Alors les Algériens, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. « Ah, la bonne !» Beaucoup de Tunisiens, elles viennent chez nous. En Algérie, car en Algérie, il y a tout. Kayen Koulch, il y a tout. J'ai dit oui, sauf l'eau du robinet, il n'y a pas. Tout le reste, il y a.
Voilà, Samia Rosman, elle sera là pour l'étape de Bamako, je crois. C'est un ressort. Exactement. C'est un ressort comique, classique, efficace de souligner les traits de caractère, alors, comme cela, suivant les différentes nationalités. Excuse-moi. Ouais, dites-moi.
Excuse-moi de couper la parole. C'est juste que vous parlez de Samia Rosman, qui est tunisienne. J'aimerais aussi parler de Tatiana Rojo, alias Amoutati, qui est ivoirienne et qui sera avec nous sur le festival au Maroc, qui va parcourir avec nous ces villes du Maroc. Il faut quand même le souligner, Tatiana Rojo est une fierté ivoirienne qui vit en France et qui fait de son maximum pour pouvoir lever au plus haut les couleurs de son pays, la Côte d'Ivoire. Et c'est important de le souligner.
Alors, vous avez raison, voilà, ça tombe bien. Je pensais en parler d'Amoutati, là aussi, une autre femme, une humoriste. Elle est française, née d'une mère ivoirienne et d'un père gabonais, je crois, c'est ça.
Un truc du genre, oui.
C'est ça. Moi, j'ai regardé son CV. C'est ça. Écoutez, on va pas gêner. On l'écoute là aussi, un tout petit bout, et puis on reparle d'Amoutati.
Est-ce que l'Afrique est là ce soir? Est-ce qu'il y a un Ivoirien dans la salle? Oui, amen. Vous avez envie de rire?
Oui.
Eh bien, vous allez pleurer. Mon mari François, on l'appelle François le Français, il est de l'Est de la France. Le jour où on s'est rencontrés en Côte d'Ivoire, il m'a posé une petite question, mais je n'ai pas bien compris la question là. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Il n'a même pas demandé mon prénom. Avant même que je réponde, François, il m'a donné la réponse. Il m'a dit, moi j'aime les marches, je les marche à pied, j'ai besoin de quelqu'un avec qui m'accompagner. J'ai dit, oh chérie Coco, il n'y a pas de problème. De toute façon, quand j'étais plus jeune, je marchais des kilomètres pour aller à l'école ou même pour aller puiser de l'eau. Donc j'ai dit, il n'y a pas de problème. Zéba! Je ne savais pas de quelle qualité de marche François me parlait. François me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Vous connaissez la randonnée? Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi? Loisir. Ça là, c'est un loisir. Nous-mêmes, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait exister. Moi, je pensais que les loisirs, c'était pour se détendre l'esprit et le corps. Tu es assis à la plage avec un bon petit cocktail, toujours sous un palmier avec un parasol, jamais bronzé. Parce que Dieu nous a tout donné à la naissance. De temps en temps, tu vas dans l'eau, tu trempes tes pieds dans l'eau. Si tu es un peu courageux, tu laves ton visage. Un vrai Africain, il nage jamais. Mais qui est fou?
Voilà, Amoutati et son chéri coco, François Amoutati, qui n'aime pas du tout la marche. Le fait de se moquer des traits de caractère entre Africains et Européens, un Français ici, ça c'est un ressort comique qui marche toujours.
C'est un ressort comique qui marche toujours et surtout que c'est pas de la moquerie, je pense que c'est un constat. C'est une réalité. Ce que Tatiana Rojo souligne dans ce sketch-là, c'est que nous, déjà, on n'a pas cette culture de marché. Parce qu'en Afrique, dans plusieurs pays, on n'a même pas de trottoir piéton. Ça veut dire qu'ici, il vaut mieux avoir une voiture si on veut vivre longtemps. Donc, ce que Tatiana Rojo met en avant dans ce sketch est tellement vrai, c'est tellement nous. Je veux dire, les Européens, ils ont une culture de pouvoir se déplacer à pied, de marcher d'un point A à un point B, prendre le métro, etc. Ça n'existe pas chez nous.
Dans la tournée, il y a vraiment des pointures. Je pense notamment à l'Ivoirien Adama Dariko.
Exactement.
Je pense qu'il faut Adama en parler, Dariko. C'est incontournable.
Exactement. Alors, j'en ai trois des incontournables avec moi cette année. Adama Dariko, Gohou Michel et Digbé Cravate, qui sont trois incontournables, trois légendes vivantes de l'humour africain. Adama Dariko est l'un des premiers humoristes en Côte d'Ivoire à avoir fait ce qu'on appelle un one-man show et à avoir ramené en Côte d'Ivoire cette culture du one-man show et du stand-up. C'est quelqu'un qui est... C'est important pour moi de l'avoir avec moi sur la tournée, d'autant plus que Adama Dariko est la première personne à m'avoir donné la chance de parler devant un public 100% ivoirien en 2008. Il avait cru en moi alors qu'il ne me connaissait même pas, il n'avait même jamais vu un seul de mes sketchs. Et puis, ça s'est tellement bien passé que par la suite, on a commencé à travailler ensemble sur plusieurs autres projets. Adama Dariko fait partie des plus grosses pointures de l'humour en Côte d'Ivoire, vraiment.
Adama Dariko, qui est comme vous d'ailleurs, il a créé un festival, le Festival International du Rire d'Abidjan.
Exactement.
Il est très connu en Côte d'Ivoire, au-delà en Afrique de l'Ouest. Il y a 9 ans, il s'était présenté à l'élection présidentielle de son pays, la Côte d'Ivoire.
Exactement.
On l'écoute un petit peu.
Mes chers amis, ce que vous ne savez pas, quand j'étais encore artiste, mon rêve c'était de mourir sur la scène, comme Molière. Mais depuis que je suis candidat aux élections président, mon rêve c'est de mourir au pouvoir. Comme Félix Houphouët-Boigh, comme Yassine Beyadé, comme Oumar Bon, comme Lassane Anko, et il y en a qui sont sur la liste d'attente. Tant qu'on peut manipuler la constitution, on peut dormir au pouls, on peut mourir au pouls. On va acclamer très fort pour ceux qui n'ont pas encore compris que 2 mandats, ça suffit. Alors, mes chers amis, je reviens de loin. Je suis candidat aux élections. Je fais la politique maintenant parce que dans mon pays, il y a beaucoup de politiciens qui font la comédie à notre place. Quand ils vont revenir à la politique, Dariko va retourner à la comédie.
Adama Dariko, donc un humour assez engagé, il n'hésite pas à parler politique.
Ah, il est à 100%, il est à 100%, il dit tout ce que beaucoup pensent tout bas, il n'a pas peur de s'exprimer, c'est un vrai artiste, Adama Dariko. Je pense que c'est vraiment un artiste.
Adama Dariko qui vous accompagne sur toute la tournée, il fait toutes les dates.
Exactement, qui fait toutes les dates, lui, Digbé Cravate et Gohou Michel.
Abidjan, le Maroc, le Mali et puis Dakar au Sénégal. Voilà, on dit souvent que la musique est universelle. Est-ce que le rire l'est également? Est-ce qu'on rit des mêmes choses dans les différents pays que vous allez traverser? Pas forcément, j'imagine.
Alors, si, oui et non. Je vous
D'accord.
explique pourquoi. C'est très simple. Moi, par exemple, quand je joue mon spectacle au Maroc, en France ou même au Canada, aux États-Unis, je ne change pas une seule virgule de mon spectacle et puis ça marche et les gens rigolent à fond parce que l'humour est même peut-être plus universel que la musique. Par contre, effectivement, il y a des humoristes qui joueraient des sketchs ailleurs que ça ne marcherait pas pour la simple et bonne raison qu'il y a des sketchs qui s'appellent des sketchs locaux. C'est-à-dire qu'il faut vivre dans un pays pour comprendre cet humour-là, ce sketch-là, parce qu'il peut être à la fois engagé au niveau de la politique, au niveau culturel, au niveau... quel que soit l'engagement de ce sketch-là, à partir du moment où il reste fermé sur un plan local, il ne peut être joué que sur un plan local. Alors oui, il existe un humour universel comme il existe un humour local. Vous savez, en parlant d'humoriste, je pense que Charlie Chaplin et Mr Bean sont des exemples du fait que l'humour est universel.
Pour Charlie Chaplin et Mr Bean, on est dans la gestuelle, dans des mimiques. Il n'y a pas de dialogue là.
Il n'y a pas de dialogue, mais c'est de l'humour.
C'est de l'humour quand même. Vous avez choisi donc l'humour universel. Vous nous dites que quand vous faites une blague à Abidjan, Côte d'Ivoire ou à Casablanca au Maroc, vous déclenchez les rires de la même façon.
Exactement. Parce que je parle de mon histoire, parce que je parle de mon vécu, parce que je laisse mon cœur parler. Il n'y a pas besoin de s'adapter. Au final, que ce soit le Maroc, la Côte d'Ivoire ou qu'on aille à partir du moment où on est en Afrique, on a beaucoup de points en commun qu'il faut juste savoir dénicher et mettre à la lumière, on va dire. quand on est en France ou aux États-Unis et qu'on vient raconter notre histoire africaine, ça ne peut que faire rire. Parce que les gens en ont marre peut-être des fois, à un moment donné, d'entendre les mêmes choses, les mêmes problèmes d'intégration, les mêmes problèmes d'immigration, les mêmes problèmes de racisme. Nous, on vient leur parler d'autre chose. Nous, on s'en fout de l'intégration, de l'immigration ou du racisme. En Afrique, on est intégré quand on est. On est intégré. Il n'y a pas de discrimination à proprement dit en Afrique. Et je pense que c'est le plus important. Après, avec tous mes respects, des cons, il y en a partout.
Ça, c'est dit. Vous savez quoi, voilà, je propose aux éditeurs de venir vérifier tout cela eux-mêmes en vous suivant sur scène, en venant assister au spectacle. Vous êtes ce soir à Marrakech à partir de 20h30, c'est au Palais des Congrès. Oui. Demain lundi, vous serez à Rabat au Théâtre National Mohamed V, le mardi à Casablanca au Mégarama, puis le mardi qui suit, le 29 janvier, à Bamako. Un petit clin d'œil au passage aux auditeurs maliens, Médien Bamako. Nous y sommes, c'est sur 100.3. Et puis le jeudi 31 à Dakar au Sénégal. La fréquence de Médien là-bas, c'est 93.8. Jeudi 31, vous terminerez cette tournée, l'Afrique du Rire, par le Sénégal. Merci beaucoup, Wallace.
Merci à vous, merci infiniment. Et bien sûr, la fréquence à Abidjan, c'est 97.2.
Bravo, bravo.
On vous écoute et on vous suit.
Formidable, ça je l'avais pas prévu du tout. Et ben c'est chouette que vous connaissiez la fréquence comme ça de tête. Merci beaucoup Wallace.
Merci à vous, à très bientôt.
Mais du coup, Médien à Abidjan, ça vous fait un petit point de Maroc.
Exactement. Ça nous fait un petit pont, ça nous permet de, comme on dit ici, de sentir l'odeur de notre terre-mère. Vous savez, on est des Ivoiriens marocains, et quand on est au Maroc, la Côte d'Ivoire nous manque énormément, et quand on est en Côte d'Ivoire, le Maroc nous manque énormément.
Merci beaucoup, Wallace. Merci. Bonne tournée. À bientôt.
Merci infiniment. À très vite. À ce soir. Ciao.
Fin de l'émission, sachez que vous pouvez la podcaster, le lien sur media.com, les émissions de la rédaction, vous choisissez Bain de Culture. À la semaine prochaine, je vous embrasse.
Spent more time with the posse, 1T, 90, 13, 8.